Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Quelles sont les perceptions sociales sur la maladie mentale? C'est le premier thème de cette émission de la vie au quotidien. Okapi Service, on en parle avec Hilaire Tchara, chef des services de bien-être et du conseil au personnel à la MONUSCO Goma. Hilaire Tchara, bonjour.
Bonjour aujourd'hui. Bonjour aux auditeurs.
Voilà, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On aura également en ligne le professeur Banzulu Bomba Degani, chef du département des neuropsychiatries à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Vous avez des questions et préoccupations sur les perceptions sociales sur la maladie mentale? On en parle aujourd'hui dans votre émission. Contrôle technique des véhicules. Quel est le bien fondé de cette opération? On en parle à partir des 11h05 heure de Kinshasa avec M. Bob Kiwakana, conseiller du ministre provincial du transport. On aura également en ligne M. Bienvenu Kakule Kambale, président de l'association des chauffeurs du Congo. Voilà ainsi présenté le menu de votre émission, de votre magazine du jour. Pour participer évidemment, composez le 099 706 9941. Nous allons vous inscrire et vous rappeler juste après pour participer. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Jonathan Chimanga assure le direct sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Tati Mapoukou à la coordination et à la réalisation de cette émission ensemble avec Naomi Moutoké. Debs Vita assure la mise en onde. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous allons parler à présent des perceptions sociales sur la maladie mentale. Vous savez, durant ce mois d'octobre, c'est un mois qui est consacré, où on va parler beaucoup plus de la maladie mentale. Certaines personnes souffrent de la maladie mentale sans les savoir. Les chocs, les déceptions et autres problèmes de la vie peuvent troubler la tête et causer certains dysfonctionnements. La personne devient trop pensive, elle a un corps chaud, transpire souvent ou elle a des maux de tête qui altèrent la capacité de réfléchir normalement. Une autre personne peut se retrouver sur la route en train de parler sur la route et parler tout seul. C'est des choses qui arrivent, on le voit souvent dans la société. Alors, les troubles mentaux peuvent être diversement interprétés dans la société. Alors, quelles sont les différentes représentations de la maladie mentale par la population? Eh bien, c'est le thème de votre émission Okapi Service aujourd'hui. Le sujet vous intéresse, vous avez des questions, des préoccupations et des témoignages. Composez déjà le 099-706-99-41. Monsieur Hilaire Tchara est chef de service de bien-être et du conseil au personnel. Il est à Goma, ainsi que notre deuxième invité, professeur Banzulu. qui est le chef de département neuropsychiatrie à la faculté de médecine, qui se trouve également à Goma actuellement. Monsieur Hilaire Achara, bonjour.
Bonjour Jody, et bonjour encore aux auditeurs.
Bien, alors qu'est-ce qu'on entend par, c'est quoi la maladie mentale?
Bon, disons que Jody, en général, ce que moi je peux donner comme définition à la maladie mentale, c'est que la santé mentale est altérée lorsqu'une personne subit des changements d'humeur, tels que problèmes physiques comme les troubles de sommeil, de concentration ou des troubles d'appétit qui persistent et deviennent intenses et qui affectent sa capacité à mener sa vie quotidienne normalement. Bon, il est bien vrai que dans la société d'aujourd'hui, cette fracture, n'est-ce pas, peut être aussi accentuée par le stress, par des événements de la vie quotidienne comme le deuil, les échecs, et aussi pas d'isolement social ou des conditions d'environnement et socio-économiques précaires. Donc tout cela peut contribuer au déclin de la santé mentale de l'individu et ce que nous appelons plus généralement la maladie mentale au sens large.
Donc c'est beaucoup plus, sont plus les événements de la vie quotidienne, les chocs ou les situations, les déceptions qu'on peut rencontrer dans la vie qui peuvent être à la base de ces problèmes.
Non, pas tout à fait. J'ai parlé de l'accentuation. La maladie mentale, en fait, s'évalue sur trois axes. Et je pense que l'émission d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'était beaucoup plus basé sur la perception de la maladie mentale en Afrique noire, dans le milieu culturel. Bon, si je reviens à la question que vous posez,
on va y arriver.
Pour recentrer le débat dans son juste. Voilà.
On va y arriver.
Si je veux placer le débat dans son juste milieu, pour revenir à ta question, je veux tout simplement dire que les troubles sociaux, les troubles psychologiques, les échecs de la vie quotidienne, ce sont des facteurs qui accentuent la faille qui existe déjà. Vous comprenez?
D'accord.
C'est des facteurs qui accentuent les failles qui existent déjà sur le plan psychologique ou bien sur le plan mental.
D'accord. Alors maintenant, parlons des perceptions, des représentations en Afrique ou dans la société par rapport à la maladie mentale. Quelles sont les différentes représentations de la population par rapport à cela?
Bon, disons que la population vient plutôt se gripper, n'est-ce pas, entrer en diapason avec les conceptions qui existent déjà depuis l'Antiquité, parce que le problème de la maladie mentale ne se pose pas seulement aujourd'hui. Dans notre société africaine, c'est enraciné dans notre culture. Bon, si je le dis, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que la culture africaine interprète la maladie mentale, et ou bien comment est-ce qu'on comprend la maladie mentale dans un contexte africain. La question est très importante parce que le discours sur la maladie mentale, comme sur tous les phénomènes anthropologiques en Afrique, ce sont des discours qui doivent être interprétés de l'intérieur et non de l'extérieur. Mm-hmm. Quand on est donc de l'extérieur, qu'est-ce qu'on dit? C'est un problème même de l'être dans la nature et de la coopération entre la nature et l'individu. Donc on définit la maladie mentale dans ce contexte comme étant une rupture relationnelle. Et quand on considère comme étant une rupture relationnelle, nous avons trois axes, nous avons trois angles où on peut évaluer cette rupture. Il y a d'abord le plan spirituel. Ça, c'est connu en Afrique, ce n'est pas un fait nouveau. Et à cela, je veux dire que nous avons beaucoup de précurseurs, comme Ibrahim Asso, vous avez le père Meirad Edgar, vous avez Eric de Rony, qui a écrit un document très important sur les yeux de ma chèvre.
Oui.
Il y a un spirituel avec des entités, avant des entités surnaturelles. Nous pouvons aussi définir la maladie mentale comme étant une rupture dans le contexte africain, une rupture relationnelle avec la société, avec son semblable. Maintenant, il y a une évaluation personnelle, physique, ontogénétique, comme on le dit souvent, qui est une rupture relationnelle de l'individu avec lui-même. Donc voilà les trois angles dans lesquels nous pouvons évaluer les facteurs de la maladie mentale, je dis.
Bien, nous parlons aujourd'hui des perceptions sociales sur la maladie mentale. On va accueillir le professeur Banzou Lubumba, chef des départements de neuropsychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Professeur Banzou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le président.
Bien, professeur, d'après vous, nous parlons des perceptions sur la maladie mentale. Comment, quelles sont les différentes représentations que la population s'est fait par rapport à la maladie mentale?
Alors, je voudrais d'abord recadrer certaines choses, parce que je pense que si on parle plus de la maladie mentale, on aura tendance à stigmatiser la situation. En réalité, comme notre collègue a parlé de santé mentale, la maladie mentale n'est qu'un aspect. Et l'aspect le plus important, c'est plutôt l'altération de la santé mentale. Et cette santé mentale peut être altérée sans qu'on développe une maladie. Et c'est ce qu'on appelle la détresse psychologique. En réalité, tout être humain doit faire face à des défis. Des défis logistiques, des défis structurels, la vie de chaque jour. Et nous avons un certain nombre de compétences, des ressources pour y faire face. À chaque fois que ces ressources sont dépassées, eh bien, on peut se sentir en situation de détresse. Et cette situation de détresse va se manifester par différents troubles au niveau des différents sphères, comme les émotions. On peut devenir irritable, se fâcher facilement, être triste. Au niveau moteur, on peut perdre la force, on n'a plus envie de bouger, on t'isole. Ou au niveau intellectuel, par exemple, on commence à avoir des troubles de concentration. Alors, ce n'est que lorsque ces symptômes persistent, deviennent permanents, que maintenant on développe une maladie mentale. Et cela rejoint justement ce que notre collègue Agoma a dit. Cette perception maintenant de cette maladie va dépendre d'un certain nombre de facteurs, particulièrement des facteurs culturels. Et dans notre pays, la conception autour de la maladie mentale est principalement une conception mystico-religieuse. Donc, beaucoup de personnes ont tendance à attacher la maladie mentale à des causes surnaturelles, spirituelles, parce que certainement la symptomatologie que l'on présente dans ces maladies est souvent une symptomatologie à laquelle on n'est pas habitué. Parce qu'elle touche l'âme, elle touche l'esprit. Voilà, globalement, c'est ce que j'aurais pu apporter comme précision pour
bien
élargir le débat.
Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Banzoulou. Alors, monsieur Hilaire Tcha'a, nous continuons à parler des conceptions. Bon, on apprend que c'est dans notre société, en Afrique, lorsque quelqu'un a des problèmes, une altération à la santé mentale ou une est en détresse psychologique, on pense directement à la spiritualité. Alors, est-ce que cette conception, elle est bonne ou elle ne colle pas par rapport à la situation, et comment arriver à rectifier cela dans la société?
Bon, je ne peux pas dire que la conception est bonne ou mauvaise, mais c'est une réalité sociale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc on ne peut pas juger, mais on ne peut juger des faits que par des résultats. Bon, je pose une petite question, je pars par une petite réflexion. J'ai déjà vu des personnes qui souffrent, n'est-ce pas, manifestant des symptômes qui sont semblables à la schizophrénie, qui vont chez le prêtre, le pasteur, on prie et ils guérissent. Vous avez d'autres qui ne guérissent pas, ils partent plutôt à l'hôpital, on leur donne les traitements, ils se réveillent.
Allô? Allô? Bien, il y a un petit souci au niveau de la liaison téléphonique. Nous parlons des perceptions sociales sur l'altération de la santé mentale. Nous avons en ligne Banza depuis Malemba Nkulu. On va le recevoir en attendant de rétablir la ligne de Monsieur Hilaire Tcha'a. Monsieur Banza, bonjour. Banza depuis Malemba Nkulu, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour. Ma préoccupation, je voudrais je voudrais avoir d'éclaircissement sur certaines situations qui nous arrivent.
Oui.
Parfois, vous rencontrez une situation et vous échouez de la maîtriser. Quand vous vous engagez dans la route, vous commencez à parloter, soit en faisant des gestes. Est-ce que là, on va dire une maladie mentale ou comment est-ce qu'on peut qualifier cette situation?
Bon, quel genre de situation, par exemple, Banza? Allô?
Et vous êtes à la maison, par exemple,
okay,
en pleine réunion familiale. Allô?
Oui, oui, on vous écoute.
Et puis, on vous dit certains mots qui vous blessent, ou bien on vous présente une situation qui dépasse votre niveau. Et quand vous sortez de la réunion, vous vous engagez dans la route, vous vous rappelez de cette situation, vous vous perdez, donc vous vous sentez déséquilibré et vous commencez à parloter peut-être avec des gestes. Et le monde qui vous rencontre voit que ce monsieur est en train de parler.
Mmh.
Vous bougez vos lèvres, vous faites des gestes. Est-ce que là, on peut dire d'une maladie mentale ou comment est-ce qu'on peut qualifier ce phénomène-là?
D'accord, merci beaucoup. Professeur Banzoulou, à vous la parole.
Je reviens à ce que j'avais dit au début. Lorsqu'on est face à une situation qui nous dépasse, on est tétanisé, en fait. Il y a donc différentes situations ou différentes manières de réagir. Face à certaines situations et lorsqu'on est tétanisé, on est dans l'impossibilité de réagir sur le moment. La réaction peut être une réaction qui est reportée. On appelle ça un déplacement en mécanisme psychologique. Et donc, c'est possible que dans certains moments, vous ne pouvez pas réagir parce que vous êtes, par exemple, face à des autorités, parce que vous êtes face à des gens envers qui vous avez peut-être un certain degré d'infériorité, vous ne pouvez pas parler. C'est après que vous allez, par exemple, vous libérer et commencer à réagir parce que cette situation était une situation tellement importante, tellement frustrante que le corps n'a pas pu réagir au moment venu. Et nous, on appelle ça des réactions dissociatives. Alors, ce n'est pas une maladie, comme je l'ai dit. Je l'ai dit qu'un symptôme ne devient une maladie que lorsqu'il devient persistant et qu'il altère le fonctionnement normal de la personne.
Mmh.
Donc, en ce moment-là, ce n'est pas encore une maladie.
Ce n'est pas encore une maladie. Voilà. Donc, Hilaire Tcha, vous êtes de nouveau en ligne?
Je suis en ligne, je dis.
Voilà, je pense que vous avez suivi la question de Banzac. Il donne un exemple. Il était dans une réunion de famille. Et puis, on lui dit des choses pas bien. Alors, après la réunion, en rentrant à la maison, il se retrouve en train de monologuer sur la route, en train de gesticuler. Alors, il voulait savoir si c'est déjà un état de maladie ou pas. Voilà.
Je dis, tout individu a sa capacité de résilience. Et dans le mécanisme de résilience, nous avons aussi les fenêtres de tolérance. Donc, le facteur stressant peut être au-dessus de notre fenêtre de tolérance et on peut présenter tous les symptômes qui venaient de signaler tantôt.
Mm.
Mais cela ne signifie pas que c'est une maladie mentale. Vous comprenez, c'est peut-être un petit trouble transitoire qui va se rétablir et le fait de la durée, le facteur durée est très important. Donc, ce n'est pas un trouble temporel, un trouble transitoire qui peut directement déterminer que la personne est malade mentale. Il faut que ça persiste et que ça paralyse sa capacité d'autonomie. Donc, jusqu'à ce niveau-là, on ne peut pas encore dire que c'est une maladie mentale.
D'accord. Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, monsieur le député.
Quelle est votre question, Charles?
En tout cas, grande est ma joie pour cette émission. Je voulais d'abord d'emblée demander aux invités, est-ce que la consommation très exagérée du chanvre à la longue peut entraîner la maladie là, du débile mental ou pas? Et puis, pourquoi les gouvernements ne songent pas à isoler les malades mentaux au moment où nous vivons toujours avec eux? Ils sont très libres avec autant de risques, autant de dégâts qu'ils sont en train de commettre chaque jour qui passe. Est-ce que les gouvernements ne pouvaient pas quand même songer à nous? Parce que si nous les attaquons, le même gouvernement va encore intervenir, dire que non, ce sont aussi des personnes, ils ont droit à la vie et qu'on sort. Mais au moment où elles commettent des dégâts, c'est un silence des cimetières. Et pour terminer,
est-ce ici chez nous, à l'UDC, il y a un taux que les invités peuvent nous dire, le taux de malades mentaux s'élève à combien? Voilà un peu tout ce que j'avais comme préoccupation, monsieur Jody.
Merci Charles Kisimba depuis Lubumbashi. Professeur Banzulu, à vous la parole.
Voilà, des questions pertinentes. Nous allons répondre à ces trois questions. La première, l'utilisation des drogues, quelle qu'elle soit, l'auditeur nous a parlé des chambres, affecte le fonctionnement du système nerveux central. On les appelle d'ailleurs substances psychoactives, c'est-à-dire des substances qui agissent sur le psychisme. Le psychisme, chez nous, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est l'humeur, donc les émotions, les mouvements, ainsi que la réflexion. Et donc, prendre sur le long terme des substances qu'on appelle les drogues de manière simple, va à la longue altérer notre manière de réfléchir, nos émotions et notre manière de nous comporter. Donc, c'est une des sources ou une des étiologies des maladies mentales. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, alors, il y a des biais, en fait. En réalité, les malades mentaux ne sont pas aussi violents qu'on le pense. C'est généralement, en fait, une perception biaisée de la société, accentuée souvent par les médias, par les informations, où on montre souvent les aspects négatifs des malades mentaux, où ils seraient agressifs. Mais en réalité, ils ne le sont pas tant que ça. Donc, les malades mentaux ne sont pas plus agressifs que la population générale. Donc, ça ne sert à rien de les isoler, de les mettre dans des camps qui seraient des camps de concentration, en quelque sorte, parce que cela augmenterait la stigmatisation et on aurait l'impression qu'effectivement, ils sont très méchants.
Bien.
Alors, troisièmement...
Troisième question, il a parlé du taux... du taux de prévalence.
Le taux, nous pouvons faire des estimations. Je prends une maladie qu'on appelle, par exemple, la schizophrénie. C'est en fait ça qu'on retrouve souvent chez les fous qui déambulent dans la société. Alors, la prévalence mondiale est de 1%. Et c'est valable, quelle que soit la culture et le pays. Et donc, si on applique le 1% ici à la population congolaise qui est de 100 millions environ, bien, on peut s'attendre à ce qu'on ait 1 million de schizophrènes, à peu près, congolais, mais qui ne se connaissent pas, pour certains, et qui n'ont pas de soins, malheureusement, parce que les structures de soins ne sont pas suffisantes.
Bien, alors nous parlons des perceptions sociales sur l'altération de la santé mentale. Monsieur Hilaire Tchara, on a parlé d'une première perception, c'est une perception mystico-religieuse. Est-ce qu'il y a d'autres... représentation de la société par rapport à la santé, à l'altération de la santé mentale?
Bon, aujourd'hui, je veux d'abord vous signaler que j'ai été déconnecté pendant un certain temps. Je n'ai pas suivi les réponses que le collègue ou bien les questions que les autres ont posées. Mais je pense d'abord que sur le côté de la perception spirituelle de la maladie mentale, nous ne l'avons pas épuisée. Et je pense que c'était ça surtout qui était l'orientation de ce matin. Bon, d'autres perceptions, ça peut être une perception sociale. Et comme je l'ai défini tantôt, la maladie mentale est une rupture relationnelle entre un individu et la communauté. Et cela peut être perçu dans la perspective où vous avez le malade, par exemple, à Goma, n'est-ce pas, qui est mal intégré et qui se retrouve dans une autre société, disons, en Afrique du Sud ou ailleurs, ou en Afrique de l'Ouest. Et la personne redevient normale. Ça veut dire que c'est le contexte de vie qui est pathogène, l'environnement de vie qui est pathogène. On a vu des cas comme ça où des individus changent d'environnement, ils changent leur environnement et ils deviennent et ils fonctionnent normalement. Donc ces facteurs sociaux peuvent être aussi accentués par le retour ou bien par la perception de l'entourage. La perception de l'entourage peut aussi n'est-ce pas, accentuer le cas de la souffrance mentale d'un individu.
Et revenons à la perception mystico-religieuse. Pourquoi les hommes pensent beaucoup plus à une influence surnaturelle quand quelqu'un a une altération de la santé mentale?
Cela dépend surtout de la conception culturelle de la maladie mentale, parce que en Afrique, n'est-ce pas, quand nous voyons les écrits de Ibrahim Asso, n'est-ce pas, Eric de Rony dans les yeux de ma chair, nous observons deux facteurs de la maladie ou deux manifestations. Nous avons les phénomènes de transit possession et les phénomènes de possession élection. Les transit possession, n'est-ce pas, peuvent être considérés comme étant une manifestation culturelle où on pense qu'il y a des entités surnaturelles, n'est-ce pas, qui sont impliquées dans le comportement ou dans les trans que les individus manifestent. Alors que dans la possession élection, on pense plutôt que ce sont des génies, par exemple, qui sont asociaux, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de la perturbation du comportement de l'individu dans son environnement. Mais déjà là, il faut aussi signaler que dans le processus électif, c'est le même processus qu'on utilise pour le traitement ou bien pour la guérison, n'est-ce pas, en utilisant les mêmes méthodes que peut-être les tradis praticiens ou autres, les méthodes initiatiques, n'est-ce pas, pour recouvrer sa santé. Et aussi, le malade mental est considéré comme un porteur, comme un individu qui est porteur de bonnes nouvelles. Et pour comprendre ça, il faut remonter dans la société serrée au Sénégal, pour voir comment la société serrée au Sénégal a expliqué dès son origine pourquoi nous avons, au niveau de la santé mentale, des individus qui, dans la transe, révèlent des choses et même le processus de traitement de l'individu. Et la même société utilise les mêmes transe ou un processus initiatique qui permet à l'individu d'entrer en consonance avec son milieu culturel et se rétablir et être plutôt une référence dans la société. Donc voilà les différentes perceptions de la maladie mentale. Nous voyons ça où nous voyons ça en Afrique de l'Ouest, dans le Vaudou, nous voyons ça dans le Bori, toujours en Afrique de l'Ouest. Il y a le Stambili en Tunisie, il y a le Zingo en Afrique centrale, n'est-ce pas, qui ne sont pas à confondre avec d'autres pratiques anthropologiques, comme le Famla, le Kong, ou bien les pratiques chez le Gwiti au Gabon. Donc, nous avons des perceptions, n'est-ce pas, et des cadres d'encadrement, et des cadres thérapeutiques qui sont différents, qui varient d'une société à l'autre. Donc, dans notre société, c'est ça d'abord qui vient à l'idée, quand un individu est malade. Et tout à l'heure, avant que l'antenne ne se coupe, j'étais donc en train de dire que j'ai vu des patients qui présentent les mêmes symptômes qu'une personne qui souffrait d'une schizophrénie. Ils partent plutôt chez un pasteur ou un prêtre, on prie, ils sont guéris. D'autres ne guérissent pas, c'est plutôt à l'hôpital. Donc, ce qui fait que la prise en charge de la maladie mentale en Afrique ou ailleurs doit d'abord être une prise en charge holistique, considérer tous les aspects, sans négliger un seul aspect. Et cela pour le bien des patients qui perdent beaucoup de temps et beaucoup d'argent sans retrouver leur santé parce qu'on n'a pas une considération holistique de la maladie mentale.
Bien. Merci. Mais certains se disent que bon, on était à l'hôpital, ça n'a pas marché. Bon, allons voir les pasteurs ou les féticheurs ou le marabout. Peut-être que ça peut donner des bons résultats, professeur Banzoulou.
Comme le vient de le dire notre autre orateur, en fait, les causes de la maladie mentale sont regroupées en trois. Il y a des causes physiques ou biologiques, il y a des causes psychologiques et il y a des causes sociales. Et dans la société, il y a la culture, mais il y a également la spiritualité. Et donc, si une personne ne se sent pas en équilibre, par exemple, dans sa vie spirituelle, pour lui, c'est un défi qu'il n'arrive pas à surmonter. Et ce défi peut être effectivement une des causes ou une des épines irritatives de sa maladie mentale. Et donc, associer des hommes de Dieu ou des pasteurs, mais des pasteurs crédibles, évidemment, qui comprennent le fonctionnement humain, n'est pas contre-indiqué, à condition évidemment que la prise en charge, comme l'a dit le collègue, soit holistique est globale et que tout le monde parle le même langage. Donc, ce n'est pas interdit. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a des aumôneries où les gens peuvent se ressourcer spirituellement. Parce que dans la psychologie, parmi les mécanismes qui permettent de réduire l'anxiété, nous avons ce qu'on appelle le coping religieux. Donc, être en contact avec Dieu est un moyen que l'être humain peut utiliser pour réduire son stress. Et donc, un moyen pour réduire justement la symptomatologie des maladies mentales. Donc, ce n'est pas interdit du moment que c'est bien formalisé et bien compris.
Bien, on va accueillir Jeannot Louemboué de Colésie et puis Aloïs depuis Luisa dans le Kasaï central. Jeannot Louemboué, Kitenge, bonjour.
Je vous salue, monsieur Jody. Je vous envoie un cassé.
D'accord.
Voilà, tout le rythme est compliqué.
Ok. Je voudrais désolé pour cela.
Demander à nos invités de remettre un peu les choses sous terre, hein. C'est-à-dire de ne pas trop scientifiser le débat. Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs réalités qui font que les gens deviennent maladies mentales. Mais très souvent, le cas que nous avons, c'est de la folie. La folie, comment on appelle ça
Akomi Liboma.
Liboma, merci. Quand nous grandissions, je me souviens, si connaissent bien le Lubumbashi, à Kiwele, il y a une école qu'on appelle Balou, permettez-moi, où ils sont spécialisés avec les enfants qu'on appelle Mongols. Je ne sais pas comment on les appelle autrement. C'est-à-dire des états mentaux dès le bas âge. Hein, je voudrais ici que nos invités nous essayent un peu de catégoriser les différents types de maladies, différents types de maladies mentales, mais de ne pas aussi ignorer l'aspect spirituel. Si vous êtes chrétien, vous vous souviendrez que dans la Bible, il y en a eu qui étaient maladies mentales, et malades mentales plutôt, et qui avaient été guéris par le Christ, dans cette date de très longtemps. Ça, c'est une réalité spirituelle. Parce que j'ai un témoignage, moi, personnellement, qui m'avait fait foi dans le dos. Vous comprenez? Mm-hmm. Le diable aussi opère. Permettez qu'on aille dans ce sens-là.
Et il semble qu'il y a des gens, par exemple, qui sont allés voir les féticheurs pour avoir la richesse. Ils n'ont pas respecté les interdits. Et puis, voilà. Paf, ils ont des problèmes au niveau de la tête.
Voilà, merci de parler de ça parce que c'est réel. Et ici en Afrique, nous savons que avant que qu'on vienne nous prêcher l'évangile, nous vivons dans ce que ou vivions dans ce que qu'on disait le Dieu africain qu'on sort. Et c'est ce qui cause un peu tout ce qu'on voit comme folie. Parce que vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui fait 20 ans dans cette maladie et qui ne guérit pas. La science ne sait pas le guérir, donc c'est le spirituel. Ça existait même dans la Bible. Moi j'ai un témoignage, je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire. Où on m'a dit que si vous allez dans certains endroits, vous ne savez pas respecter, vous serez frappé des folies pour ne pas que vous dévoiliez le secret, pour ne pas que vous dévoiliez le secret de ce que vous aurez vu.
Mmh.
Hein? On ne peut pas toujours demeurer scientifique tout en ignorant le côté spirituel alors qu'on est africain. Même si on allait aux États-Unis, on est africain. Voilà. Est-ce qu'on peut nous catégoriser un peu, séparant un peu le type de maladie mentale, folie, mongolisme, je ne sais pas si on va parler de ça, mongolisme, attardé mental, et de nous dire si c'est guérissable tout ça. Prenons les cas de, soyons clairs, quelqu'un qui s'est connu en Afrique, il veut devenir ministre, il donne en sacrifice ses enfants. Abotami Kizenginae, on appelle ça le mongol. C'est un enfant qu'on chérit dans toute la maison. Ça, c'est clair, c'est on est africain, on doit se le dire.
Oui.
Vous tapez cet enfant, touchez au papa. Vous allez voir tous les Français de Molière. C'est un enfant toujours propre, mais qui bave dans la maison. C'est un cas connu, une âme qui naît comme ça, qui n'a pas demandé de naître comme ça. Parce que papa doit devenir ministre. Est-ce que c'est cas? Est-ce que c'est guérissable, oui ou non?
Bien. Cas comme celui-là. Merci beaucoup, Jeannot Louemboué. Aloïs, vous êtes à Luisa, bonjour.
Bonjour, monsieur, aujourd'hui, Daniel.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la santé mentale? Est-ce que vous êtes d'accord que souvent en Afrique, lorsque pour quelqu'un souffre de problèmes de la tête, au niveau de la tête, c'est lié à des réalités spirituelles?
Oui, effectivement, il y a les perceptions sont nombreuses hein, dans notre société congolaise, particulièrement ici à Lille où je me trouve. Je crois que les invités sont réunis sur beaucoup de choses là-dessus. On parle de la stigmatisation, des préjugés qui découlent de la peur, de l'ignorance ou certaines croyances culturelles. Exemple, l'idée que la maladie mentale est causée par les esprits, la sorcellerie ou une punition divine entraînant une exclusion sociale, la discrimination, la marginalisation des malades mentaux. Et aussi, il y a des difficultés d'insertion dans les milieux d'emploi. Et alors, face à cette situation, j'avais des préoccupations à poser aux invités. La première, c'est que quelles sont les approches modernes qui peuvent promouvoir une intégration sociale des personnes souffrant des troubles mentaux. Et la deuxième préoccupation, souvent de telles maladies sont une source de division dans certaines familles. C'est un cas que j'ai personnellement connu avec un aîné mais qui en est totalement guéri pour le moment. Mais lors de la période de sa maladie, il y a eu des divergences quant aux sources thérapeutiques entre ceux qui soutenaient le traitement moderne, le traitement spirituel, et ceux qui voulaient emprunter la voie des marabouts pour qu'on puisse nécessairement trouver une solution. Alors, je demande aux invités quels conseils ils peuvent donner aux membres des familles qui traversent certaines situations comme celle-là pour la sauvegarde des unions entre les membres. Voilà.
Bien, merci Aloïs depuis Luisa. Nous parlons des perceptions sociales sur l'altération de la santé mentale. Nos invités nous ont parlé de conceptions mystico-religieuses. Donc en Afrique, surtout chez nous, les gens pensent que voilà, c'est lié à des réalités surnaturelles. Monsieur Hilaire Tchara, vous avez suivi les différentes préoccupations. Vous avez la parole.
Merci, je dis. Déjà, au premier auditeur, je dirais qu'il ne nous a pas très bien suivi, parce que mon collègue et moi, nous avons apporté beaucoup de clarifications par rapport à ça. Et je voudrais aussi dire que ici, c'est pas un lieu où on peut donner toute la classification de la maladie mentale, n'est-ce pas? Si on veut le faire, on peut passer là toute la journée et aller nommer. Mais la plupart du temps, on classe les maladies mentales en trois groupes. Il y a les psychoses, il y a les neuroses, et il y a des cas limites qui sont entre les deux. Mais je dirais aussi que la prise en charge de la maladie mentale dépend du diagnostic. On ne peut pas avoir une thérapie générale qu'on peut appliquer à tout le monde. Et aussi, il faut savoir que la prise en charge de la maladie mentale est un peu beaucoup complexe en psychiatrie ou en psychopathologie, parce que quand vous souffrez, par exemple, d'un paludisme, vous partez à l'hôpital, on vous fait une goutte de peste et puis on peut déterminer si c'est positif ou pas. Mais la maladie mentale n'est pas ça. À l'entrée, vous pouvez avoir une suspicion d'environ trois entités nosologiques ou bien pour dire ça très bas, comme il se plaignait tout à l'heure, une suspicion, si on peut le dire, et ce n'est que le traitement et le suivi des symptômes qui peuvent nous permettre de savoir qu'il s'agit de telle ou de telle maladie. C'est ça. En ce qui concerne le côté spirituel tel qu'il a dit tantôt, nous l'avons bien signalé. On a dit que le côté spirituel aussi existe. On a vu des gens qui ont été guéris par une petite prière, mais qui ne l'ont pas été à l'hôpital. Mais ça devient difficile de proposer ou de suggérer une prise en charge unidirectionnelle où on peut faire un diagnostic en disant, bon, là, le tradit praticien peut mieux s'en sortir, ou l'hôpital, ainsi de suite. C'est pour ça que le traitement intégratif est toujours mieux, même en médecine. Le traitement intégratif n'est pas interdit. Donc, je ne peux pas condamner une famille qui, après une période de prise en charge quelque part, ça ne va pas, on change un peu d'orientation. Au même moment, c'est très délicat, n'est-ce pas? Parce que là, on ouvre aussi une boîte à Pandore où les gens peuvent naviguer de gauche à droite. On part ici pour une semaine, ça ne va pas. On va de l'autre côté pendant deux semaines. On quitte encore, on va ailleurs. C'est un peu très difficile. Moi, je pense que il faut, et je comprends aussi, c'est l'angoisse des parents qui ont une personne qui souffre et à qui, ou bien on ne peut pas facilement trouver une solution. La prise en charge de la maladie mentale est longue. La prise en charge de la maladie ou bien de la souffrance mentale est longue. Et la patience, souvent, est très importante. C'est pour ça qu'au niveau de l'accompagnement, on n'accompagne pas seulement l'individu qui est malade, on accompagne toute la famille, parce que c'est toute la famille en ce moment qui souffre, c'est toute la communauté qui souffre. Il faut pouvoir les accompagner et les orienter. Et c'est ça aussi le travail fondamental des psychologues. Parce que le traitement n'est pas seulement un traitement qui doit prescrire uniquement des médicaments, mais l'accompagnement est fondamental. Mmh. L'accompagnement, c'est vraiment précieux dans ces cadres-là. Donc, comme il le signalait tantôt, le premier auditeur aussi le signalait, il a signalé les cas qu'il a vus dans la Bible, Jésus lui-même a guéri, on ne dit pas non. Nous l'avions signalé que ça se fait. Les prêtres, il y a des prises en charge en thérapie chrétienne qui marchent aussi. On ne peut pas dire non parce qu'il y a des cas qui sont prouvés. Sur le plan de notre société, je vous ai dit tantôt qu'il y a ces deux processus que nous connaissons, les processus de possession qu'on appelle les transits possession et les possessions élections. Mais les deux ne sont pas des pathologies parce que les transits possession sont des processus thérapeutiques. C'est aussi une forme de trans qui permet aussi d'identifier, n'est-ce pas, l'esprit qui est dans l'individu. Je le dis comme ça dans un contexte traditionnel, ça ne vient pas de moi.
Oui.
Donc si c'est un esprit artificiel, on passe toujours par les séances d'exorcisme, comme les chrétiens le font, n'est-ce pas, comme aussi les musulmans le font. Les musulmans le font aussi, et des individus guérissent. Donc, on traite la maladie selon la cause. Merci.
Bien. Professeur Banzoulou, quelqu'un a parlé tout à l'heure de certaines personnes qui veulent avoir la promotion ou un poste ministériel. Ils ont des enfants qui ont des problèmes de santé mentale, des enfants qui bavent, qui sont à la maison. Bon, et ces enfants sont très bien choyés. Donc, il s'est dit que c'est, voilà, c'est une altération mentale entretenue. Parce que le papa veut s'enrichir ou avoir beaucoup, occuper une certaine position dans la société.
Bon, comment je dirais? En fait, lorsque nous devons parler de la maladie dont tu parles, le mongolisme ou le syndrome de Down, en réalité, la cause est une cause génétique. On appelle ça la trisomie 21, c'est-à-dire qu'au niveau de certains chromosomes, au lieu d'avoir deux, on en a trois. C'est ce qui fait que ces patients présentent des altérations au niveau de leur sphère intellectuelle. Ils ne sont pas très intelligents. Et il faut savoir que au niveau du cerveau, il y a deux types de maladies. Il y a les maladies dites neurologiques et il y a les maladies psychiatriques. Psychiatrie, c'est ça la santé mentale. Et donc, même quand on a une maladie neurologique, comme la trisomie dont il parle, ou par exemple la démence, ou par exemple un traumatisme crânien, cela peut également se manifester par certains symptômes psychiatriques. Alors, est-ce que ce seraient les parents qui seraient responsables de cela, que ce serait une maladie dont la cause est spirituelle? Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas les arguments pour y répondre. Alors, que les gens, par exemple, puissent développer eux-mêmes de la folie ou des troubles mentaux après avoir été initiés dans certaines pratiques mystérieuses. Cela peut s'expliquer scientifiquement. Je ne dis pas que la conception qu'on a est bonne ou mauvaise. Je dis scientifiquement, ça peut s'expliquer. Quand vous êtes, par exemple, dans ce genre de pratiques, et que vous avez l'impression que vous n'avez pas respecté les recommandations ou les principes, cela peut développer chez vous de la peur. Or, on va prendre ça de manière simple. Quand on a peur, on a par exemple le cœur qui bat plus vite. On a par exemple la respiration qui s'accélère. On a les mains qui tremblent. Et quand on a peur, on a du mal à se concentrer intellectuellement. Quand on a peur, on a des difficultés à dormir. Alors, quand ces symptômes entretenus par cette peur deviennent permanents et persistants, et qu'en plus cette personne a peut-être déjà une vulnérabilité, parce que peut-être dans sa famille il y a des gens qui ont présenté des maladies mentales, c'est-à-dire que lui, il a plus de facilité de les présenter, eh bien oui, ça peut déclencher une maladie mentale. Donc scientifiquement, on peut l'expliquer sans pour autant prouver que c'est ça la cause réelle, qu'il y a un lien de cause à effet, mais au moins indirectement, on peut l'expliquer via la peur qui, elle, entraîne un dysfonctionnement au niveau du psychisme de l'individu.
Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire...
à l'autre auditeur.
Oui, l'autre qui a dit qu'il a eu un cas dans la famille où la famille était divisée. Certains voulaient utiliser les moyens, l'approche moderne, d'autres non, voulaient aller voir plutôt le pasteur ou les féticheurs pour des séances d'exorcisme.
Alors, comme on l'a dit avec notre collègue de Goma, la prise en charge des maladies psychiatriques est une prise en charge globale. C'est-à-dire qu'on doit s'adresser au corps, parce qu'on a certaines vulnérabilités, on doit s'adresser à la psychologie, l'esprit, mais également à la société. Et donc, la prise en charge est dite multidisciplinaire. Il n'y a pas qu'un psychiatre qui doit s'en occuper, il faut un psychologue, il faut un sociologue, il faut un kinésithérapeute, il faut une équipe qui est faite de plusieurs personnes. Et dans cette équipe-là, effectivement, on peut avoir des hommes de Dieu qui ont une certaine formation, qui peuvent aider, parce que j'ai parlé de la stratégie d'adaptation basée sur la religion qu'on appelle le coping religieux. Hein? Mmh. Alors, pour faire face à tout cela, on dépasse le simple aspect médicamenteux pour aller à ce qu'on appelle actuellement la stratégie de réhabilitation. Parce qu'effectivement, ces patients, étant donné que leur esprit est altéré, ils ont, par exemple, des difficultés à s'intégrer dans la société. Donc, il faut mettre toutes les mesures, toutes les batteries en marche pour les réintégrer. Quelqu'un qui a, par exemple, des difficultés de travail, de trouver du travail, parce que son niveau intellectuel n'est pas suffisant, il faut lui trouver, par exemple, un travail adapté à son niveau intellectuel. Et là, par exemple, l'État peut intervenir en mettant sur pied des sociétés où ces gens sont travaillent, mais sous supervision thérapeutique, par exemple. Mmh. Et donc, la famille peut trouver divers moyens de prise en charge qui correspondent, en fait, à leur culture, à leur manière de penser, pour qu'eux-mêmes aussi soient apaisés. Parce que, comme l'a dit l'autre orateur, en fait, la maladie, comme sa prise en charge est longue, eh bien, ça demande également à la famille de s'adapter. Et cette adaptation peut fatiguer la famille. Et lorsqu'on est fatigué, effectivement, on peut considérer le malade comme une charge et certains peuvent vouloir s'en débarrasser. Et c'est ainsi que ça peut provoquer, effectivement, des mésententes et des malentendus en famille, par exemple.
Bien, on va accueillir Eminent Mwanda de Bukavu et Papi Mboyo de Mbandaka. Eminent, bonjour.
Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Je vous dis bonjour à tout le monde.
Rapidement, quelle est votre question, Eminent?
Quelle est la différence entre la démence et la maladie mentale? C'est ce que moi je voulais savoir. Et quand est-ce que la démence peut atteindre les maladies mentales que l'individu peut au moins développer? Parce que j'ai eu des expériences, quelqu'un peut commencer à manifester certains gestes et grimaces, mais à la longue, il va maintenant attraper les troubles psychologiques. Maintenant, comment cela se fait avec le temps?
Bien, merci. Papi Mboyo de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour à l'invité. Je pense que je vais faire attendre là-bas.
Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Allô?
On vous écoute, allez-y.
Allô, M. Jody?
Oui, papi.
Ok. C'est parce que ici, quand il menace de pleuvoir, il y a un peu, la ligne est peut-être perturbée un peu. Mais je crois que vous m'attendez.
Oui, vous pouvez évoluer, on vous entend, on vous écoute très bien.
Ok, merci beaucoup M. Jody. Merci aussi pour la thématique du jour. Merci aussi aux interventions de nos invités. Et bonjour à vous aussi. Vraiment, le sujet est très crucial de voir que la maladie mental aujourd'hui bat son plein, monsieur Jody. Nous sommes à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Je vais vous dire, il y a un cas ou dans les quartiers où moi je reste, il y a un monsieur qui est parti chez un féticheur pour trouver de quoi, des fétiches pour devenir un grand musicien du pays, quoi.
Oui.
Et le marabout lui dit, vous devez vous accoupler avec votre maman biologique.
Et il l'a fait.
Une vie de prière intense, et maman a pu refuser. La maman a refusé, le monsieur a eu de retour. A eu de retour jusqu'à aujourd'hui, il est passé fou. Et que, mais cette même maman a voulu la récupérer, l'amener par-ci, par-là, auprès des charlatans, auprès des médecines normales, tout ça, ça n'a pas tenu. Donc aujourd'hui, le monsieur reste dans mon quartier ici, c'est dans les maisons voisines. Alors, pour voir tout ça, les cas sont multiples. Les cas sont multiples, mais je ne peux pas aller, vous êtes allé sur faute de temps. Je me rappelle dans quelques petits soucis que j'ai pour en avoir, monsieur.
Rapidement, oui. Parce qu'on est presque à la fin de l'émission. On est presque à la fin de l'émission, allez-y, okay. Très rapidement.
Merci, monsieur Jody. Merci beaucoup. La première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans les universités, vous pouvez voir les universités, les joueurs, les gens qui ont des problèmes mentaux, ce sont des gens qui peut-être étaient intelligents dans ce domaine-là. Vous pouvez voir un joueur qui va aller voir le féticheur, et il doit avoir l'expérience de jouer, il marque les buts, il va aller voir le féticheur. Et les étudiants, ici, vous voyez un étudiant qui est vraiment compétent, qui est intelligent, où les enseignants viennent, on va lui initier dans la science occulte, et demain ou après-demain, il va avoir des problèmes mentaux. Pourquoi seulement les intelligents? Les gens intelligents n'arrivent pas à ce niveau.
D'accord. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Hilercha. Monsieur, pardon, s'il vous plaît. On est presque à la fin de l'émission. Monsieur Hilercha, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs avant de clôturer cette partie?
Oui, Jody, j'y vais très rapidement parce que, déjà, je n'ai pas bien compris la question du premier auditeur. Mais par rapport au deuxième qui se rejoint qui va dans le même sens que l'auditeur d'avant, moi, je dirais que le temps est très bref. Je vous dirais que tout ceci part de la structure de la personne et de la conception de la personne personnalité en Afrique. Je veux m'excuser si je peux être un peu, si ça peut être un peu difficile, mais ils ont fait allusion, ils sont allés dans le domaine de la parapsychologie. Et je dois aussi répondre dans ce sens-là. L'individu en Afrique a une polarité ouverte, alors qu'en Europe, c'est une polarité fermée. Et dans cette transcendance, il y a ce que nous appelons, ce qu'on peut appeler les doublets antithétiques. Les doublets antithétiques peuvent être manipulés par n'importe qui. Et c'est ça que les magiciens, les marabouts utilisent pour essayer d'accentuer la performance d'autres personnes. Dans ces doublets antithétiques, vous ne pouvez pas les contrôler. C'est tout simplement celui qui les utilise, qui les initie, qui les utilise, qui les manipule. Mais vous ne pouvez pas. Donc c'est dans une ligne unidimensionnelle. Et généralement, n'est-ce pas, dans l'ordre de la spiritualité, on dit que le monde de la spiritualité n'aime pas le désordre, n'aime que de l'ordre. Alors, si vous vous mettez dans un processus qui est téléguidé par une autre personne et vous ne suivez pas le rythme de la personne ou bien la démarche est imposée, les conséquences sont aussi là. C'est la même chose dans la société. On vous dit ne volez pas. Si vous volez, vous allez partir en prison. Ne faites pas ceci. Si vous le faites, il y aura des conséquences. Donc, les gens doivent s'engager dans des choses qu'ils maîtrisent. Si vous ne maîtrisez rien,
ne vous engagez pas. Donc, on peut dire que... on peut dire que le mauvais sort, l'envoûtement ou la sorcellerie, ça peut... sont des réalités spirituelles qui peuvent aussi être à la base de l'altération de la santé mentale.
Bon, c'est un chapitre très long et très lourd que vous venez d'ouvrir comme ça à la fin de l'émission.
Bon, on aura l'opportunité prochainement d'en parler, bien sûr. Merci beaucoup, Hilaire Tcha'a, chef des services de bien-être et du conseil au personnel à la MONUSCO Goma. Nous disons également merci au professeur Banzou Lubomba Degani, chef des départements des neuropsychiatries à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et au plaisir de vous retrouver prochainement pour poursuivre ces débats sur les perceptions sociale sur la maladie mentale ou l'altération de la santé mentale.